Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici, ou encore là, tout près ici, très loin là-bas, ou même très, très loin. Celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises partout autour de vous. Depuis plus de 120 ans, nos équipes dédiées accompagnent les entrepreneurs d'ici à chaque étape pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, la croissance de leur entreprise.
Parce qu'en immobilier, pour être à son affaire, suivez les conseils de nos experts. Via Capital, les courtiers immobiliers qu'on aime référer. Bonne écoute.
Cube Radio.
Bonne année, chers amateurs de football. Déjà la dernière semaine de la saison régulière dans la NFL. Quels seront les matchs à surveiller dans la semaine 18? Les Dolphins sont au tapis pour le compte de 10, mais ils devront essayer de se relever pour mieux manger une autre volée contre les Bills. Pendant que certaines équipes se concentrent sur leur choix au repêchage, d'autres se préparent à rentrer en série. La zone payante fait ses prédictions pour le Super Bowl. Drôle de fin de saison pour certains qui perdent patience et commettent des gestes de clown. Qui parmi eux feront leur chemin jusqu'au bar? Les actus de la NFL, les questions du public, la chronique au bar, de savantes analyses et beaucoup d'émotions. C'est ce qu'on vous promet dans ce nouvel épisode de La Zone Payante. Bonjour à tous, bienvenue à La Zone Payante. Je m'appelle Jean-Nicolas Gagné, c'est un plaisir de vous retrouver encore une fois cette semaine. La dernière semaine de la saison régulière, c'est un peu triste, mais bon, c'est le début peut-être de quelque chose de neuf. Les séries, je suis en compagnie de l'expert du Journal de Montréal et de Québec, Stéphane Cadarette. Salut Steph!
Hola Monsieur Gagné, bonne année!
Bonne année, bon retour. Toi, t'étais à Buffalo en fin de semaine.
Écoute, moi,
trip familial.
Je me sauve toujours dans des endroits très exotiques, tu le sais.
Je vois ça.
Non, mais ça a été...
La prochaine fois, ça va être Guelph?
Ouais, Guelph, Ontario. Non, mais c'était écœurant, sans farce, là. Puis mes enfants avaient jamais vécu un match NFL. Commence à se faire grand, les enfants, là. Fait qu'il était temps, qu'on le fasse, mais... c'est tout le temps embêtant pour moi parce que je couvre le sport comme tel. Fait que, tu sais, là, je pars-tu, je peux pas m'en aller n'importe quand. Puis là, bon, le fait que c'était le 31 décembre, il y avait pas de journal le lendemain. Bon, c'est sûr qu'on fait toujours des papiers pour le web maintenant. Mais bon, je me suis dit, écoute, pour une fois, je vais m'autoriser ça, un petit congé d'NFL pour mieux aller voir de la NFL.
Ben oui, mais la famille, c'est pas la même affaire, là, tu travailles pas, là.
Non, c'est ça, de pas regarder le match d'une façon analytique, de pas penser à ce que je vais devoir écrire, de pas penser au deadline. C'est vraiment génial.
De te laisser emporter par la Bills Mafia, parce que là, les gens qui nous écoutent le savent peut-être pas, là, mais t'as revêti les couleurs des Bills.
Ça, t'as pas dû aimer ça, hein? Ça a dû te faire un pincement. Je sais pas s'il va y avoir un froid, là. Un froid entre nous deux pour débuter 2024, peut-être?
Non, mais c'est surtout que je peux pas croire que t'as laissé tomber le mauve pour le bleu, là.
J'ai pas laissé tomber le mauve pour le bleu, mais écoute, je pense qu'il y a quelque chose d'encore plus trippant à aller voir un match puis d'être aux couleurs de l'équipe. Puis comme j'ai pas nécessairement de parti pris, je te dirais par contre que c'est pas vrai. J'efface ce que je viens de dire. Les Bills, ça a un peu tout le temps été ma deuxième équipe. Encore plus
pas
depuis
une autre
que...
une deuxième équipe.
Ouais, puis depuis, moi j'avais un grand chum d'enfance, puis il a pris une très mauvaise décision en 2017 de s'enlever la vie. Puis, depuis ce temps-là, les Bills sont comme remontés à la surface. Rappelle-toi, il y a eu comme 15-17 ans de malheur, là, qui faisait pas les séries, qui était pourri, qui était pas écoutable. Puis lui avait continué malgré tout à les encourager, puis ah, ils vont revenir, puis à chaque année, là, il devait faire les playoffs, puis c'était l'année où il allait rebondir, puis tu sais... C'était bien le fun de jaser foot avec lui. Puis, il y avait un petit quelque chose de spécial, je te dirais, d'aller là, de porter son vieux chandail de Marshawn Lynch. Je veux pas faire trop dans le sentimental, mais pour vrai... Là,
non, mais j'avoue que là, tu me fais regretter un peu de m'être moqué de toi. Là.
C'était quelque chose. Puis là, ben écoute, je m'en vais là. Puis tous ses enfants à mon chum parce qu'on côtoie encore sa conjointe puis ses enfants puis tout ça. Puis tous ses enfants avaient des chandails des Bills. Ils tenaient à les prêter à mes gars, à ma blonde, tout ça. Fait qu'on s'est tous habillés en Bills. On a vécu le trip jusqu'au bout. Puis vraiment, tu sais, c'était formidable. Là. Il arrive 4 revirements, dont un pick six. Je peux te dire que le stade là-bas, ça shake pas mal là, quand il arrive un jeu comme ça. L'attaque a été so-so, on va se le dire. Josh Allen était off pas mal. Je me rappelle entre autres d'une passe en profondeur à Diggs où Diggs avait vraiment là, 2, 3, 4 pas d'avance sur son DB. Il y a eu des moments là, plus plates comme ça, mais côté défensif, les Bills ont donné tout un show là, puis ils ont mis vraiment de la pression sur les pattes. Fait qu'on a eu de quoi de bon, de le fun. Puis à la mémoire de Bass que je salue au passage. C'est dommage ce qui est arrivé, mais ouais, c'est ça. Et je pense qu'il serait content de savoir qu'on a perpétué sa tradition. Lui, il y allait vraiment souvent aux Bills.
Puis on lui souhaite que d'en haut, peut-être qu'il voit un jour les Bills triompher lors du grand match.
Ben oui, mais pour ça, il faudra qu'il passe à travers Miami. On pourra en reparler, ça. Tu lui souhaiteras
peut-être pas cette semaine. Pour moi, c'est tout. Merci d'avoir été là, Steph. Merci à vous d'avoir été encore ici cette semaine. On se retrouve la semaine prochaine pour une autre édition de La Zone Payante. Bye-bye.
Ciao. T'auras pas le choix d'en parler, Jean-Nic.
Et boy, je te dis que les gens qui voulaient me parler de football cette semaine, fallait qu'ils mettent des pincettes. Pas à peu près, là.
Ah ouais, 4 paires de gants blancs pis tout, là.
Et puis, non, là, c'est sûr que j'étais pas un gros... Non, mais ça me tentait pas d'en parler. Je dis,
j'espère bien que ça te tentait pas.
Non, mais j'ai le sentiment de me faire avoir, là. Tu sais, là, depuis 2 semaines, là, puis les gens de la zone payante, on vous adore, là. Je sais que vous êtes comme à l'écoute, puis vous connaissez Stéphane, vous connaissez nos sauts d'humeur, vous savez que je suis un partisan émotif qui est pas logique. Plusieurs me l'ont rappelé. Et là, depuis 2 semaines, toutes sortes de personnes m'écrivaient, me disaient, voyons, Jean-Nic, là, retrouve ta bonne humeur, là, ça va bien, les Dolphins, là. Là, il y a Tommy aussi qui nous a écrit, me disait, regarde, là, t'avais dit ça au début de la saison, c'est pas vrai, puis là, on a des bons joueurs, puis on est capable de on va faire du chemin en série, puis tout ça, puis là. D'autres qui me disaient, hey, le Super Bowl, là, check la cote des Dolphins, puis d'autres qui me montraient les power rankings. Hey, les Dolphins sont premiers, ça va bien, là. Tous ces gens-là, là, ça m'a monté à la tête. Je me suis donné de l'espoir. J'y ai cru. La semaine passée, tu sais, j'ai mis les Ravens perdants contre les Dolphins. Oui.
C'est ta thérapie qui commence à faire effet. Là.
C'est comme si on m'avait forcé à monter dans une échelle, puis plus haut jusqu'à plus haute marche, puis me tirer en bas. C'est comme si depuis le début, tu sais, moi, j'étais prudent, je restais dans le petit escabeau, puis je me disais, ah, tu sais, au moins la chute, elle sera pas trop haut, tu sais, quand les Dolphins vont se faire rosser, tu sais. Je vais continuer à avoir les attentes basses, là. Mais non, on m'a forcé. Non, monte à une autre marche. Tu vas voir de plus haut, ça va être super. Mais oui, on s'est fait trosser. Je sais même plus c'est quoi le score en fin de semaine. 56 à 19.
Mais pourquoi tu voudrais savoir le score? T'as pas besoin, fais-toi pas mal, là. Je veux dire, tu souffres assez comme ça, là.
Ça non, paraît, mais je regrette tellement là, d'avoir entendu tout ce bruit, là. Tous ces gens, là, qui me disaient, voyons.
Mais donc, le bruit, là. Ben justement, j'aimerais en aller là. Le bruit de tous les gens, là, t'es toujours pas d'accord que les Dolphins c'est une bonne équipe. C'est pourri, on jette la saison poubelle, on oublie tout.
Non, mais là, j'espère que tu te rends compte en plus que ça vient de gâcher notre off-season. Là, parce que là, tous les gens, sans doute aussi que des joueurs, s'étaient fait à croire qu'ils étaient dans une bonne équipe. Mais là, tous les bons joueurs, prends Wilkins, là, qui là, peut-être qu'il se dit, ah, je pourrais prendre un petit discount là, pour jouer à Miami puis continuer de chasser un Super Bowl. Mais oublie ça, là, tous les joueurs vont vouloir partir. Là. Tout, là, Tyreek Hill, aujourd'hui, ça met tout le monde en feu.
Penses-tu tout le monde dehors. Que... Ah oui.
Peut-être pas tout le monde, là. Parce que là, ça, c'est l'autre chose. Toi, qu'est-ce qu'on va faire, là? Là, on a eu la preuve là, que dans les gros matchs, c'est pas la première fois qu'ils s'effondrent dans un gros match. Mais là, cette fois-ci, c'était encore pire. Et là, qu'est-ce qu'on fait? Là, on lui donne 50 millions par année? On lui donne un contrat à la Justin Herbert?
Toi, non, hey, si t'es Jean-Nic Gagné, le DG, tu le payes pour qu'il sacque son camp.
Non, attention, je suis pas rendu au point de dire qu'on a mieux, ou il y a mieux dans le repêchage. Mais qu'est-ce qu'on fait, là? On est dans l'année où il faut y offrir un contrat. On prend pas le franchise tag, là. Fait que là, faut lui offrir un contrat. On va y offrir quoi? Le même contrat que Justin Herbert? Le contrat de Lamar Jackson? Le contrat de Daniel Jones?
Ben, je comprends que c'est un dilemme, ça, c'est sûr. C'est évident que Il a pas répondu à toutes les questions, mais moi, je pense quand même que, écoute, tu raides avec lui. Tu raides avec lui. Oui, quitte à ce que ce soit un contrat de type bridge un peu, un 3 ans, quelque chose comme ça. Est-ce que toi accepterais ça? C'est ça la mais question. Non. C'est ça la grande question. Non. Parce que pourquoi d'autres l'ont accepté puis lui pourrait pas le faire, je sais pas. Mais c'est sûr que est-ce que tu te commets à lui? Il y a toujours moyen après de jouer dans la structure du contrat. Tu sais, des fois, le montant au bout, là, 5 ans, 200, je sais pas combien de millions, là, ça frappe, là, ça captive l'imaginaire. Non, mais quand tu décomposes le contrat, et souvent, il n'y a pas tant de garanties.
Oui, mais ça, c'est sans compter que là, on a des problèmes aussi avec le cap salarial. On a le capocalypse qui arrive. Jalen Ramsey et Vic Fangio sont à couteau tiré. Peut-être que même lui va vouloir partir. Xavier Howard, ben là, peut-être qu'il reviendra plus non plus. De toute façon, on va falloir en couper. Le Bradley Chubb, il vient de se briser l'autre genou. Jalen Phillips doit se remettre d'un talon d'Achille.
Hey, il y a une chance. Il y a un positif dans tout ça, c'est qu'il joue à Miami en fin de semaine, parce que sinon, il y aurait eu un crash d'avion, c'est sûr.
Ben, c'est vrai. Ils sont aussi bien de rester à Miami pour prendre l'avion, parce que vraiment, eux autres, tout va mal. Je te disais tantôt, Tyreek Hill, sa maison est en feu. Et là, je sais pas dans quel état d'esprit il va se retrouver. Il a dû quitter la pratique mercredi en panique pour aller voir quelle est l'ampleur des dégâts. Ils sont immenses. Bref, on en parlera un petit peu tantôt du match des Bills. Je voulais pas trop m'étendre là-dessus. Évidemment, tu as réussi à me faire parler des Dolphins.
Ben, on en parlera un tout petit peu parce que tu nous as quand même dévoilé ta prédiction.
Oui, mais j'ai pas dit par combien de points il allait se faire tabasser.
Ah, OK.
Ça, à la limite, tu sais, je veux dire, c'est plus important, là, parce que là, il faut prier pour la santé de tout le monde, là, tu sais, là, à la limite, qu'il joue seulement une demi, là, puis qui ferme ensuite les livres, puis qu'on je sais même pas si ça vaut la peine de jouer en série, on s'en va jouer à Kansas City. Ça va finir 100-0, là, mais bon.
On fait un bout que les Chiefs ont fait 100 points, là.
Oui, mais c'est sûr que 100 points, c'est peut-être beaucoup, une chance. Et en tout cas, nous, on va en faire 0. Merci, Steph, de toujours assister à mes thérapies. Je voulais juré que je parlerais pas des Dolphins.
Mais je te dirais que c'est de pire en pire. Pauvre toi, là. Mais écoute, moi, j'aime ça comme ça, là.
On peut pas tous être chanceux et avoir des clubs qui sont bons comme les vôtres, là.
Ouais, les Vikings, là.
Nous, ça fait depuis 2000 qu'on n'a pas gagné un match de série. Puis lui, d'avant, on l'avait gagné en overtime parce que stupid kicker à Vanderjagt avec les Colts avait manqué son botté. Il m'a dit, nous, on a gagné un match de série, là. Ça coûte cher. On fait une pause, Steph. On revient après la pause parce que déjà, on y va pour la semaine 18, là, où on va faire les prédictions pour la dernière semaine de la NFL.
Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici, ou encore là, tout près ici, très loin là-bas,
ou même très, très loin.
Celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises partout autour de vous. Depuis plus de 120 ans, nos équipes dédiées accompagnent les entrepreneurs d'ici à chaque étape pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, la croissance de leur entreprise.
Parce qu'en immobilier, pour être à son affaire, suivez les conseils de nos experts. Via Capital, les courtiers immobiliers qu'on aime référer. Bonne écoute.
Vous êtes sur la zone payante et c'est l'heure des prédictions pour les matchs de la fin de semaine. Des matchs qui, plusieurs matchs ont encore des incidences sur les séries éliminatoires. On va s'attarder un petit peu plus sur ces matchs-là. Il y en a qui sont sans importance, même à la limite pour la place pour faire un bon choix au repêchage. Mais un des matchs qui a une incidence et qui risque d'être difficile à prédire, c'est le match de samedi après-midi, les Steelers contre les Ravens. Les Steelers qui ont besoin de gagner pour faire les playoffs. Ils sont, imagine-toi donc, favoris les Steelers par 3 dans ce match. Et on prévoit 36 points, donc un match à bas pointage. Parce qu'on sait que
c'est les Ravens... C'est pas mal toujours le cas entre ces deux équipes-là. Ouais, effectivement. Puis tu sais ça, tu pars avec la bonne phrase. Ils font jouer personne. Puis il y a beaucoup de clubs cette semaine que ça va comme ressembler à ça. Quand ils ont pas d'impact, quand ils peuvent plus aller plus loin que là où ils sont rendus, qu'il n'y a plus rien à gagner, ben écoute, c'est une semaine très bizarre, la semaine 18. C'est probablement la pire pour les parieurs parce que c'est pas les vraies formations nécessairement qui sont là. Puis là, on a un bon exemple. T'sais, les Ravens, sûrement qu'ils vont jouer Tyler Huntley. Il a été 3 victoires, 5 défaites, je pense, en relève à Lamar Jackson. Fait que c'est pas très prometteur. Il y a beaucoup d'autres partants qui seront peut-être pas là longtemps. Les Steelers qui vont jouer avec l'énergie du désespoir, au contraire, parce qu'ils ont besoin d'une victoire pour une place en série. Puis non seulement ça, là, ils ont besoin du Saint-Esprit aussi, là, parce que ça va prendre une victoire plus une défaite des Bills ou une victoire et une défaite des Jaguars. Fait que c'est ce qui se présente là aux Steelers. Ils vont s'occuper de leur part du contrat. Je pense que ça va être une victoire là à bas pointage, effectivement. C'est toujours le cas entre ces deux équipes.
Je vais aussi avec les Steelers en ce match-là. En fait, je l'espère. J'aimerais ça que les Steelers fassent une place en série. Les Colts, eux, le même jour, reçoivent les Texans. Ça aussi, c'est un match... c'est un match you win, you're in, ça?
Oui, je veux juste vérifier les Colts de leur côté. Les Colts, ouais, c'est ça. Ça prend une victoire et une défaite des Jaguars pour les Colts. Mais du côté des Texans, victoire et you're in. Donc, un match extrêmement important, évidemment. Dans ce cas-ci, moi, avec le retour la semaine passée de Stroud, un alignement des Texans qui est plus en santé, je vais favoriser les Texans, même si le match est sur la route à Indy. C'est quand même pas l'environnement le plus hostile qui soit non plus. Ouais, victoire des Texans.
J'y vais moi aussi avec les Texans. C'est fou comment CJ Stroud est en train de s'installer. C'est quand c'est rendu que tu fais la différence.
Écoute,
c'est que tu diriges vers le titre de recrue de l'année aussi à travers ça.
Totalement, bon point. Puis les Texans, là, faut souligner, s'ils se ramassent en série, même s'ils se ramassent pas en série, mais encore plus s'ils se retrouvent en série, quel revirement extraordinaire. Là. C'est incroyable. Un club qui avait 3 victoires l'année passée.
Ouais. Un match sans importance, vraiment. Les Bucks, ben c'est pas vrai. Les Bucks s'en vont jouer les Panthers en Caroline. J'y ai pas d'importance. Il y en a, mais pas pour les Panthers.
Non, effectivement, les Panthers, absolument rien à gagner ou à perdre, à part l'honneur. Les Bucks, ils remportent ce match-là. C'est quand même un beau cadeau sur un plateau d'argent. Tu affrontes la pire équipe de la Ligue, puis si tu gagnes, tu remportes ta division. Donc, automatiquement, tu fais play-off. C'est assez fantastique comme scénario. Baker Mayfield, la semaine passée, qui est retombé sur terre un peu, un moins bon match contre les Saints. Mais là, écoute, c'est juste trop beau pour être vrai. Là. Ta survie est sa ligne, puis t'as les Panthers d'impact. Ça peut pas être plus beau que ça pour les Bucks. Là, je vais y aller avec une victoire de leur côté.
Une victoire des Bucks, moi aussi. Les Bengals reçoivent les Browns. Est-ce que les Browns ont quelque chose à gagner de ce match-là? Ils peuvent toujours se frayer un chemin au deuxième seed ou non? Je pense pas. Hein?
Non, c'est pas possible de leur côté parce que de toute façon, là, la division est gagnée par les Ravens. Puis les seeds 1, 2, 3, 4, c'est les champions de division. Donc, eux autres ont rien à gagner. C'est Jeff Driscoll qui va être le partant et non le bon
vieux
Joe
Flacco. Les
Bengals
sont favoris par 6 dans le match. Fait que ça donne une idée que les Browns ont un peu lancé la serviette pour ce match-là.
C'est ça. Là. Ceci explique cela parce que normalement, je pense que les Browns seraient favoris quand même. Il y a autre chose aussi d'avance. Par contre, ce qui favoriserait les Bengals dans d'autres circonstances, là, c'est que c'est-à-dire, ce qui favoriserait les Browns dans d'autres circonstances, c'est qu'ils sont 1-9 dans les derniers matchs là, contre les Bengals. Mais là, écoute, je sais pas quoi penser de ça. Jeff Driscoll, tu sais, c'est pas un corps arrière qui est très encourageant, disons-le comme ça. Mais non, je le vois tout simplement pas. Moi, j'y vais avec les Bengals pour finir l'année avec une fiche positive, ce qui serait un pas pire accomplissement considérant là, les difficultés avec la blessure de Joe Burrow. Ça serait pas si mal de finir avec une fiche positive.
Les Lions, moi aussi je voyais avec les Bengals, même si Ja'Marr Chase a fait un fou de lui là, en s'ostinant avec le gars des...
Si
t'as vu ça, là.
Ah oui, puis là, il continue de dire après le match, non, ils ont rien de spécial, les demi-défensifs des Chiefs, écoute. Oui. come on, là, tu viens de te 3 faire 3 catchs,
40 verges sur 7 targets, comme t'as pas eu un gros match, là, va te coucher, là, man.
Tu sais, et l'humilité de base de reconnaître la défaite, puis le monde vont juste plus apprécier tes commentaires après coup.
Tes Vikings s'en vont jouer les Lions à Détroit. Les Lions sont favoris par 3. Explique-moi qu'est-ce qu'il y a à gagner dans ce match-là.
Pas grand-chose. Écoute, les Lions, ben, ils ont encore... Non, est-ce qu'ils ont encore une chance au deuxième seed? Je pense pas. Mais écoute, les Vikings, de toute façon, là, qui cherchent complètement au poste de carrière. Tu sais, t'as vu Jaren Hall contre les Packers.
On se l'était dit la semaine passée.
Ben,
c'est la dernière chose à faire de partir une recrue dans ce match-là. Là.
Ouais, j'ai essayé d'y croire, là, peut-être par partisanerie, ça m'a joué des tours parce qu'ils ont mangé toute une rince. Puis là, tu te tournes vers Nick Mullins en deuxième demi. Ils ont toujours une chance de battre Détroit, les Vikings. Là, c'est un club qui est capable de causer des surprises de temps en temps. Mais ça va prendre là, beaucoup, beaucoup, beaucoup. Pour te donner une idée, pour que les Vikings fassent les séries, ça prend non seulement une victoire, mais ça prend une défaite des Packers, une défaite des Seahawks et une défaite des Bucks ou des Saints. Puis là, je te rappelle que les Bucks jouent contre les Panthers. Fait que, ouais, moi, je vais aller...
Quand tu as parlé des Bucks contre les Saints.
Ben, c'est ça. Puis moi, je vais aller allumer quelques lampions à Sainte-Anne-de-Beaupré. C'est de là-bas que je vais écouter le match. Je pense qu'il se passera pas grand-chose. Là. En partant, je mets Détroit pour gagner ce match-là. Fait que ça finit là. Mais si les Vikings devaient l'emporter, ça va prendre quelques miracles.
Écoute, t'aurais-tu dit ça quand Kirk Cousins s'est blessé que à la semaine 18... Tu regarderais le match avec encore un espoir, si minime soit-il, de faire la série?
Non, c'est très bon. Puis c'est bon. Exactement la façon dont tu devrais évaluer tes saisons à Miami, de voir la lueur d'espoir là, dans les ténèbres.
Je voyais ça des partisans qui disaient « Ah, oh, moi, je suis juste grateful qu'on ait fait 2 années de suite les séries. » OK. Les Jets s'en vont à Foxborough pour ce qui pourrait être le dernier match de Bill Belichick à la barre des passes. Mais c'est drôle, plus j'y pense, en tout cas.
Plus tu penses qu'il revient?
Ben, je sais pas. Mm. En tout cas, ils sont favoris par 2.5. Ils finissent l'année, c'est pas une totale disgrâce. Je voyais avec les passes, moi, dans ce match-là.
Écoute, est-ce que c'est une totale disgrâce? Là, ils sont 4 et 12. Je sais pas.
C'est son c'est pas match, fameux là. Non plus.
Ce sont des matchs, oui, c'est sûr. J'y vais avec les Pats aussi, là, parce que là, les Jets, c'est ça. Là, ils se retournent vers Trevor Siemian. Il n'y a plus de solution. Là.
Puis, ils ont-tu eu l'air fou la semaine passée? Là. Le gars qui était dans leur cour arrière, qu'on leur a dit 1000 fois, là, « Hey, les gars, Aaron Rodgers est blessé. Trouvez-vous un autre QB, dépêchez-vous, il y en a. Oh non, on va essayer Zach Wilson. On essaie. Ouais, mais il y en a d'autres, là. Essayez-en, là, Joe Flacco. Oh, Joe Flacco, on l'a essayé l'année passée, il était pas bon. Hey.
Là, on parlera de ça. On a une question d'auditeur là-dessus. On pourrait y revenir. C'est un bon point. Mais tu sais, pour ce match-là, si il y en a peut-être qui vont se dire, ben, Seaman, ça va être mieux que Zach Wilson. Les Jets ont une chance. Peut-être, mais Seaman, juste pour que vous sachiez, il est 1 et 7 dans ses 8 derniers départs. Puis les Pats, ben, ils ont gagné les 15 derniers matchs contre les Jets. Puis les Jets n'ont pas inscrit plus de 17 points contre les Pats depuis 2020. Ça commence à faire un petit bail.
Attardons-nous pas trop sur ce match-là. Tu y vas avec les Pats. Falcons contre les Saints à New Orleans. Les Saints sont favoris par 3.
Ouais, puis ça, c'est un autre match où il y a un enjeu. Même si les fiches des équipes sont pas spectaculaires, dites-vous que c'est quand même très important parce que les Falcons ont une chance encore de gagner leur division s'ils battent les Saints et que Tampa se fait battre par les Panthers. J'en conviens, là, les chances sont minuscules, mais quand même, ils sont encore en vie. Puis les Saints, ben eux, ils ont encore une chance eux aussi de gagner la division. Puis ils se battent aussi pour une place en série. Ils peuvent faire les séries avec une victoire et des défaites des Packers et Seahawks. Là. Fait que, tu sais, il y a un enjeu là. L'environnement en Nouvelle-Orléans va être très rock'n'roll, je pense, pour un match important. Ça va être difficile pour les jeunes Falcons qui se cherchent toujours autant au poste de corps arrière. Tu sais, que ce soit Heineke, que ce soit Ridder, les résultats sont pas toujours là. Mais ils sont souvent dans le match. La semaine passée, ils ont été déclassés un peu, mais ils sont souvent dans le match, les Falcons. Fait que je vais y aller avec une victoire des Saints, mais quand même relativement serrée.
Et moi aussi, victoire des Saints, les Jags qui rentreront pas sur les séries avec un gros momentum s'ils gagnent, s'en vont au Tennessee contre les Titans, mais ils sont favoris par 5.5. Ça veut dire que Trevor Lawrence va jouer.
Devrait, puis de toute façon, là, les Jaguars, il y a un enjeu, ils n'ont pas le choix parce que la division n'est pas encore gagnée là, de leur côté. Ils gagnent et la division est à eux pour une deuxième année de suite, mais s'ils perdent, ça se complique.
Ouais, c'est ça. Là. S'ils perdent, moi, j'ai fait plusieurs simulations, puis c'est pas facile.
Ils peuvent carrément, je pense, encore glisser en dehors des séries.
Tout à fait, facilement.
Fait que, t'sais, c'est rien de gagner de leur côté. Par contre, Tennessee, là, c'est comme une bête un peu à terre. Là. Il n'y a plus grand-chose à tirer de ça. Est-ce que c'est Tannehill qui va jouer? Est-ce que c'est Will Levis? Je pense pas que ça va faire une grosse différence. Donc, je vais favoriser les Jaguars.
OK, moi, je vais avec une victoire des Titans. Je pense que les Jaguars sont déboussolés puis ils vont même aller perdre le dernier match contre une défensive qui va encore aller chercher des revirements contre les Jaguars.
Fait que Houston, champion de division, ça serait quand même un scénario intéressant.
Oui, exact. Seahawks, tu disais qu'ils doivent gagner. Ils s'en vont en Arizona affronter les Cards. Les Cards, ils en donnent pour leur argent, mais les Seahawks sont favoris par 2.5 pour remporter ce match.
Mais tu fais bien là, de dire que les Cards, faut pas les compter pour mort. Regarde ce qu'ils ont fait aux Eagles.
Je vais prendre les Seahawks. Je vais te laisser parler, mais je vais prendre les Seahawks. Mm-hmm. Mais je pense que je vais le regarder ce match-là parce que je sens qu'ils vont avoir de l'intensité.
Ouais, ça devrait être bon. Puis les Seahawks, ben ils ont besoin d'une victoire et d'une défaite des Packers. Fait que tu sais, il va avoir encore de l'enjeu à 4h25. C'est ça qui est bien. Tu sais, c'est pas tout le temps. Je regardais le calendrier de la semaine. Je trouve pas que c'est nécessairement beaucoup de grands matchs. Mais les matchs ont quand même pas mal souvent un enjeu, comme tu disais là, d'entrée de jeu. Fait que c'est pas une semaine perdue. C'est juste une semaine bizarre. Les Seahawks, écoute. Je pense qu'ils ont quand même l'habitude de ce contexte-là, de se battre un peu pour leur survie dans des moments comme ça. Ils vont jouer avec une belle énergie. Il y a de plus en plus de rumeurs, mais ça reste au stade de rumeurs à l'heure où on se parle, que ça pourrait être la fin pour Pete Carroll, pas par faute de rendement, mais peut-être que lui a juste le goût de tirer la plug. Je sais pas. Écoute, on verra.
Il y a que le goût de tirer la plug là, quand tu le vois dans le vestiaire puis quand il est sur le bord de... Peut-être, là, mais...
Je suis totalement d'accord avec toi là-dessus. Je trouve
peut-être
qu'il y a encore beaucoup d'énergie.
Peut-être que c'est comme ça qu'il en profite pleinement.
Ouais, c'est ça. On verra. Mais je trouve que ce qu'il démontre, c'est un homme qui a encore beaucoup d'énergie. Il a pas l'air d'un petit vieux fini. Il est pas dépassé. Tu sais, les Seahawks, c'est quand même une équipe qui a un bel avenir, je pense. J'ai l'impression qu'il va vouloir donner une dernière go, là, peut-être, dans les prochaines années. Mais on verra. En tout cas, moi, pour cette semaine, je favorise aussi Seattle.
Bears qui s'en vont à Green Bay jouer les Packers. Je pense que Jordan Love est pas prêt pour ce match-là. J'y vais avec les Bears.
Ah ben, j'espérais te surprendre. Moi aussi, j'ai les Bears. J'ai pas vu qui était favori, rien encore, mais...
Les Packers par 3.
Ils jouent très bien dans les dernières semaines. Les Packers, ben, ils ont bien joué la semaine passée, mais c'est inégal. T'sais, d'une semaine à l'autre, tu sais pas à quoi t'attendre. Les Bears, c'est une équipe, je pense, qui va être à surveiller l'an prochain. Peu importe ce qui arrive avec Justin Fields ou est-ce qu'on repêche un corps arrière avec le premier choix des Panthers, parce que c'est un club qui a clairement le momentum là, pour finir l'année. Là, c'est trop peu, trop tard, il n'y a rien à gagner. Mais quand même, là, je te le dis, quand un club finit une saison en force comme ça, généralement, c'est signe que l'année d'après, ils sont prêts à faire un step. Fait que je ne serais pas surpris que les Bears soient surveillés cette semaine.
Tu es en train de me dire que Matt Eberflus...
Ouais.
Va être encore là l'an prochain.
Il paraît que c'est à peu près à toute fin pratique confirmé, mais ça, on entend des bruits à gauche, à droite, des insiders sur la NFL. Ils peuvent se tromper. Mais ce qui se dit là, dans les derniers temps, c'est que son poste serait assuré pour l'an prochain. Ça reste à voir.
Il faut que j'apprenne son nom. Les Raiders, eux, reçoivent les Broncos, deux équipes éliminées. C'est quoi dire ce match-là? Les Raiders sont favoris par 2.5. Après toute la saga de Russell Wilson.
Ouais, c'est plus vraiment grand-chose à dire. Tout a été dit sur la saga Russell Wilson. Moi, tout ce que je dirais, c'est que pour Antonio Pierce, ce match-là est très important. Tu veux faire bonne impression. Là, la semaine passée, ils l'ont échappé contre les Colts. T'sais, tu veux finir sur une bonne note pour au moins permettre à Mark Davis de se creuser la tête, de réfléchir. T'sais, peut-être que s'il en colle deux défaites de suite pour finir l'année, Davis est un intempestif. Est-ce qu'il va se dire « Ah, fuck, bon, moi, je regarde ailleurs. » ce match-là est important pour lui, mais sinon, pour nous, les amateurs, il n'y a pas d'incidence là, comme tel. Je vais favoriser les Raiders, tiens, qui vont jouer pour leur coach.
Ouais, moi aussi, les Raiders, dans ce match-là, contre les Broncos, qui sont tout mêlés. Les Chargers, eux, reçoivent les Chiefs. C'est un autre match où il n'y a rien de spécial à dire. Sans doute, plusieurs partants des Chiefs ne joueront pas. Les Chargers sont favoris par 3.
Exact, c'est ça.
Je vais y aller avec une victoire des Chargers. Je vais y aller avec l'équipe locale. Là. Je pense pas que ça va être un match intéressant non plus à regarder, malheureusement, pour les amateurs.
Andy Reid a déjà annoncé que ce serait Blaine Gabbert le partant. Là. Fait que tenez-vous-le pour dit. Là, après, il y a d'autres partants. Est-ce qu'ils vont jouer tous ou aucun? Il y a beaucoup de blessures du côté des Chiefs. Chris Jones, Pacheco, Rashee Rice, Lajarius Sneed. On parle de joueurs très importants. T'sais. Tout indique qu'ils vont être reposés. C'est des joueurs quand même majeurs. Dans ce contexte-là, écoute, je vais y aller aussi avec les Chargers. Là, je ferais pas ça normalement, mais je pense qu'il y a trop de gros noms. Là, ce sera pas la même équipe qu'on voit habituellement des Chiefs.
Les Eagles sont favoris par 5 points à New York contre les Giants. Est-ce qu'il y a quelque chose à regarder là? Les Eagles ont-ils encore une shot pour quelque chose ou pour le champ? Il faut qu'ils gagnent pour remporter la division, mais il faut que les Cowboys perdent.
Tout à fait. Les Cowboys ont leur destinée entre les mains, ils gagnent et ils sont champions, mais tu sais, t'as pas le choix de jouer si t'es les Eagles, surtout que les Cowboys jouent à même heure, donc tu sais pas le résultat de l'autre côté. Donc, ils ont pas le choix d'habiller leur partant. Puis non seulement ça, si t'es Nick Sirianni, même s'il n'y avait pas eu d'enjeu, tu veux voir ton équipe rebondir. Là. Écoute, ça faisait pitié, ça fait pitié depuis quelques semaines.
Sérieux,
c'est vraiment tout croche en défense.
Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que c'est leur... Ils ont tout changé leur offensive et defensive coordinator, eux. Là. Peut-être que là, c'est là que on voit que Sirianni s'est moins bien entouré.
Ça stalle pas
c'est
mal
dur à comprendre,
en ce moment.
Là.
Ouais, c'est dur à mettre le doigt dessus, mais autant défensivement qu'à l'attaque, c'est pas du tout, c'est méconnaissable. C'est une belle occasion, je pense, quand même, pour retrouver ta confiance de finir contre les Giants. Puis je dis pas ça avec mépris sur les Giants, là, mais écoute. Faut que tu ailles gagner ce match-là de façon convaincante, te donner un peu de positivisme avant la série. Je pense que ça va être la mission des Eagles là, dans cette rencontre-là.
D'accord. On prend tous les deux les Eagles dans ce match-là. On s'en va à San Francisco. Les 49ers qui n'habilleront sans doute pas trop de partants non plus. Mmh. Ils sont favoris pareil contre les Rams qui, eux, vont habiller tous leurs partants. Là.
Ouais, ben je pense que ça... Non, les Rams ont rien à gagner. Ils sont en série.
Ils peuvent pas monter déjà qualifiés. Ils peuvent pas monter d'un seed, non?
Là, ça va être genre, est-ce qu'on finit 5 ou 6? Là? Tu peux pas 5, 6 ou 7. Ils ont déjà annoncé que Carson Wentz serait le partant.
Ah, bon.
Fait qu'écoute, dans ce contexte-là...
Donc, ça garantit quasiment le match, le retour de Matthew Stafford à Détroit là, pour les séries.
Ouais, ça pourrait ressembler à ça. Ça sera un beau scénario, effectivement. Ça va être à surveiller, mais tu sais... Du côté des Niners, c'est sûr que Purdy devrait pas jouer ou très peu jouer. McCaffrey, la même chose. Mais t'as quand même un Sam Darnold qui peut faire le travail dans un système offensif très performant là, avec Shanahan. Moi, je vais y aller avec les Niners. Là. Mais tu sais, c'est un match très, très, très difficile à prédire avec beaucoup de partants qui seront pas là. Bonne chance.
Aussi, là, dans le doute, je vais y aller avec les Niners à domicile. Ouais. On poursuit avec les Cowboys et les Commanders. Les Cowboys sont favoris par 13 points. Les Commanders qui, depuis leur match contre les Dolphins, c'est down the drain avec Sam Howell.
C'est épouvantable.
Ça va être une fin. Le Ron Rivera, là, d'après moi, pas besoin de se faire de double clip l'année prochaine. Là, et
ah non, c'est terminé.
Il rentrera plus là, là.
Écoute, ce match-là va se finir probablement à 7h30, puis à 7h32, il va être congédié. Là. C'est aussi simple que ça, puis c'est plate pour lui, là, mais c'est comme ça, la vie dans la NFL. Nouveau propriétaire va vouloir mettre ses hommes en place. Ce serait très surprenant, un scénario là, contraire à ce qu'on pense. Puis les Cowboys, le seul bémol moi que j'ai sur ce match-là, c'est qu'ils jouent sur la route. Parce qu'ils vont l'emporter, oui, mais tu parlais d'un 13 points?
13 points.
Ça porte à réflexion. Parce que sont 3-5 sur la route cette saison, puis 5 fois, ils ont marqué 20 points ou moins. Je le dis là pour les parieurs, à prendre en considération. Mais pour ceux qui font des paris straight, là, Cowboys, victoire, c'est sûr.
On s'en va au match qui a été flex. Hein. Quelle mauvaise décision, en plus de la NFL, de mettre un des matchs qui être le plus one-way de la semaine. Si tu penses que les Cowboys, ça ne sera pas serré, attends de voir le match entre les Bills et les Dolphins. Écoute, hey. Moi, je te dis, là, je suis encore tombé dans le piège. Là, j'ai des attentes pour le match des Dolphins. Je vais sans doute être déçu, mais j'espère qu'il y aura pas de blessés. S'il y a pas de blessés des Dolphins graves dans le match,
est-ce que Tua joue?
Ben oui, il va jouer. Il est mal à l'épaule, mais sinon, écoute, s'il joue pas, parce qu'il y a une petite blessure à l'épaule, parce que tout ce que je lis, c'est que c'est une blessure, oui, là, mais il devrait pouvoir jouer à travers cette blessure-là. Mm-hmm. Si en plus, il joue pas dans un match aussi... Écoute, je sais même plus s'il est important, ce match-là. Ça change-tu quelque chose qu'on joue un match à domicile puis qu'on perde devant nos partisans ou qu'on perde à Kansas City? Écoute, ça va être un match... ça va être à sens unique, là. Ça va être un désastre. En plus, au sol, tout le monde est blessé. Bradley Chubb est plus là. Jerome Baker devrait pas revenir pour ce match-là non plus. C'est la défensive des backups.
Écoute.
Je prévois 30 points, je trouve ça beaucoup, là, parce que les Bills vont peut-être enlever leur partant rapidement. Mais un match, mettons 27-3, là, ça m'étonnerait pas.
OK. Ben, moi, j'ai les Bills aussi, là, mais de façon plus serrée. Là. Moi, je vois un touché, quelque chose comme ça. Rappelle-toi que les Dolphins, en série, l'année passée, là, ils jouaient avec Skylar Thompson, je pense. T'sais, fait que les backups, des fois, faut se méfier de ça. Là. T'sais, ils sont capables de jouer. Je pense pas que ça va être une volée, mais ça se peut. Là. T'as peut-être raison. Tu connais tes Dolphins mieux que je les connais, probablement.
Non, mais en plus, cette semaine, c'est terrible. Là. Comme je te dis, là, la maison de Tyreek Hill est en feu. Tout le monde est en train de se redemander qu'est-ce qu'ils vont faire cet été pour voir si ça vaut la peine de rester avec une équipe qui vraisemblablement était pas une fraude là, parce qu'ils ont quand même des bons joueurs puis ils ont bien joué, ils ont battu des mauvaises équipes ou des équipes moyennes, tu sais, toute l'année, puis ça veut dire qu'ils étaient dans les bonnes. Tu sais, quand tu bats les mauvaises équipes, c'est que toi t'es la bonne, mais c'est quand même bien, mais sauf que toutes ces équipes là, tous ces joueurs là qui veulent se trouver une équipe qui aspire aux plus grands honneurs ou qui veulent aller chercher de l'argent, ils feront pas de discount pour Miami, alors que j'aurais pu penser qu'avec une fin de saison en force, il y a des joueurs qui auraient pu se dire, regarde, je vais signer à Miami, puis on va faire comme, je vais prendre moins d'argent, mais c'est parce que je vais rester pour le Super Bowl. Il n'y a plus personne qui va se dire ça. Et pire encore, là, ceux que des gars comme Jalen Ramsey, où il leur reste pas beaucoup d'années, puis ils voient que ça, c'est un cul-de-sac à Miami, ils vont vouloir s'en aller. Est-ce que ça va avoir un mouvement d'entraînement? Je sais pas. J'espère que non. Mais, puis sans compter que je te le disais tantôt, qu'est-ce qu'on fait avec Tua? Est-ce qu'on lui donne un contrat de quart de franchise alors qu'il est borderline franchise? Il est bon, là. Il a des bons chiffres, tout va bien, mais la statistique de gagner des matchs importants, c'est quand même pas pire, ça, de l'avoir.
La question dans ce temps-là, c'est toujours qui tu ramasses de mieux ailleurs? Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas aller voler Kirk Cousins aux Vikings? Tu vas... tu sais, ça va être qui, là?
Ben, c'est pour ça, non, mais je dis pas qu'il y a mieux ailleurs. C'est qu'est-ce qu'on fait avec lui qu'on a? C'est parce qu'on est dans une... On est dans une politique, on est dans une dynamique dans la NFL où les carrières, quand t'es signé, c'est pour des montants exubérants. Puis là, après 3-4 ans, ça devient une bonne affaire. Mais toi, Pat Mahomes, là, son contrat, là, là, les Chiefs, on l'a signé à bon prix, là, tu sais, quand tu regardes comparativement à des Deshaun Watson de ce monde, là. Puis même, ça va être mieux, plus ça va aller dans 3-4 ans, moins il va coûter cher, là, Pat Mahomes, puis c'est super. Sauf que là, pour les Dolphins, est-ce que tu donnes des 50 millions garantis, pour des premières saisons à Tua? Alors que t'en plus, tu vas avoir un problème de cap salarial d'ici 2 ans? Je dis pas qu'il est le meilleur, puis je dis qu'il... Oh ouais, mais écoute, il est pas mauvais, mais il perd... écoute, le match contre les Ravens, c'est terrible, là. Enfin. Faut dire que Tyreek Hill a pas connu un bon match non plus cette fois-ci. Tout ça pour dire, moi, dans mon cas...
Il a connu un bon match.
Ouais. À 56, à 19, personne peut se vanter de... Personne peut siffler dans la douche, là.
Non.
Comme Tony Gwynn. OK, on va faire une pause là-dessus, mon cher. On va revenir parce que là, on en a des questions cette semaine. On va essayer d'en passer le plus possible. Fait que bougez pas.
Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison ou votre emploi du soir? Celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises à toute heure du jour. Grâce à notre connaissance des secteurs d'activité et à notre accompagnement spécialisé, nous aidons les entrepreneurs à relever chaque défi pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, le développement de leur entreprise.
Parce qu'en immobilier, pour être à son affaire, suivez les conseils de nos experts. Via Capital, les courtiers immobiliers qu'on aime référer. Bonne écoute.
OK, on est de retour pour la période de questions de la zone payante, oui. Hein?
Oh!
As-tu retrouvé mon sifflet? Mais je ne l'ai même pas retrouvé, là. Il est parti. Écoute, pendant la pause, j'ai essayé de le partir, ça partait pas. J'ai fait une moue déçue et je suis retourné ailleurs. Et là, c'est comme s'il m'appelait au secours.
Écoute, ah, tout est dans la moue déçue.
S'il est vivant...
Hey, boy, deux fois plutôt qu'une.
Robin, on va commencer par Thomas. Thomas!
Tu viens de voler un punch, il va avoir un moment Robin.
Thomas de Bordeaux, qui nous pose une question. Et là, cette semaine, on est 11 en 16 tous les deux. Donc, je sais pas si c'est bon ou pour toi ou pour moi, mais il nous pose une question et il nous souhaite bonne et heureuse année. D'ailleurs, on lui retourne le compliment.
Ben oui.
Mike Tomlin va terminer sa 17e saison consécutive avec un bilan positif en tant qu'entraîneur-chef. Respect! Quels sont les autres entraîneurs de la NFL à égaler ou à dépasser ce palmarès?
Ouais, en fait, c'est 17 saisons sans un dossier négatif. Fiche perdante. C'est ouais, ça, c'est la, ça. Juste la nuance, là, ça a l'air con de dire ça parce que il y a eu des saisons de 8-8 à l'époque où il y avait 16 matchs, il y a pas si longtemps. Fait que c'est 17 saisons consécutives sans un bilan perdant. Puis les deux seuls dans l'histoire qui ont fait mieux, c'est Bill Belichick avec les Pats, 19 saisons de suite. Puis le grand gagnant, Tom Landry avec les Cowboys, entre 1965 et 1985, 21 saisons de suite. C'est quand même quelque chose. Félicitations à l'homme au petit chapeau, Tom Landry. Thomas, tu iras googler Tom Landry. Tu vas lire plein d'informations intéressantes sur lui. C'est un entraîneur très novateur là, à son époque.
Robert nous pose la question. Bonjour, on voit souvent les entraîneurs et les coordonnateurs se couvrir la bouche avant de donner leurs instructions dans le micro. Ma question, est-ce que les équipes ont vraiment parmi leur personnel une personne attitrée à lire sur les lèvres et décoder les appels des jeux et communiquer rapidement l'information aux joueurs? Question plus large, les équipes consacrent-elles beaucoup de ressources pour décoder les infos données par le carrière lors des appels de jeu?
C'est une bonne question, Robert Amiot. Merci. Je me demande si c'est pas sa première question. En tout cas,
oui, il termine d'ailleurs en disant qu'il nous souhaite bonne année et qu'il permet de souhaiter à l'animateur moins de défaitisme dans sa partisanerie.
Ah.
En plus de quelques victoires des Dolphins en janvier. Ben là,
j'aime déjà notre nouvel auditeur,
Robert ne spécifie pas quel animateur est défaitiste. Là.
Ben,
peut-être que c'est de toi qui parle.
Peut-être, mais bon, d'après moi...
C'est vrai qu'il fait lien avec quelques victoires des Dolphins. Peut-être qu'il fait référence à moi, mais ça m'étonnerait en même temps. Mais bon, peut-être. C'est Robert pour la question.
Fait que pour
c'est
la question...
Ça, c'est quoi la folie de toujours se cacher autant que ça? Là?
Il parle comme ça avec la main devant les lèvres, puis le carton, puis tout. Là. S'ils font ça, il y a une raison. T'sais, c'est sûr que les équipes investissent là-dessus. Là. T'sais, c'est pas quantifiable. T'sais, c'est dur pour moi de donner une réponse. Ah oui, les équipes ont tant de personnel d'engager pour faire que ça, parce que c'est pas quantifié. Tu vas pas sur leur site, puis dans leur personnel, c'est écrit, lui qui est responsable de lire les signaux. T'sais, tu vois pas ça, c'est pas quantifiable, mais c'est certain là, qu'il y a une emphase qui est mise là-dessus. T'sais, par exemple, je pensais aux Pats parce qu'il y a eu le fameux Spygate. Ça, c'était quoi? C'était en 2007, je pense. 2006, quelque chose comme ça.
Ils ont triché tellement souvent les Pats qu'on vient qu'on s'y perd. Là, je suis d'accord.
T'as perdu le fil, Jean-Nic. Fait que c'est ça, il y avait un dénommé Ernie Adams qui était avec eux, qui était, la rumeur étant qu'il était spécialisé un peu dans ce genre de passe-passe-là. Mais tu sais, lui, il avait un titre de conseiller senior ou je sais pas quoi. Là, j'ai pas le nom exact du poste qu'il occupait. Mais il y a tout le temps, là, les Pats, faut pas penser que c'est les seuls. Puis d'ailleurs, quand le scandale était survenu, de manière générale, dans la NFL, on disait à peine à mots couverts, ouais, ben c'est de même partout, ils sont juste fait prendre la main dans le sac. Fait que tu sais, j'essaie pas de banaliser ça, mais je pense qu'il y a effectivement un département dans chaque équipe où on dit, OK, vous autres, vous êtes chargés carrément là, d'essayer de nous avoir le plus possible de signaux, de mots, de vocabulaire des autres équipes. Est-ce que ça amène... Moi, ce que je me suis toujours demandé, c'est combien de pourcents ça t'amène de plus là, de chances de victoire? Bill Belichick lui-même avait déjà dit que c'était à peu près nul. Puis là, Robert Kraft, il avait dit donc que t'es un imbécile d'avoir fait ça. Je sais pas là, à quel point ça amène des chances de plus, mais je suis convaincu que les équipes ont tous des employés là, qui sont affairés à ça.
Jérôme, Jacques nous dit, quel est votre moment le plus mémorable de la saison?
Hey, ça, c'est une bonne question, mais j'ai tout le temps de la misère à chaud comme ça. La saison est pas finie. Puis là, des fois, je me dis que j'ai dû en oublier déjà. Mais pour moi, un moment fort, ben je vais y aller avec mon choix. Je sais pas toi si t'en as un, Jean-Nic, mais moi, c'est les Browns en série avec Joe Flacco. C'est pas un moment dans le temps comme tel, là, mais c'est plus un accomplissement pour moi qui est incroyable. Parce que Joe Flacco, là, tout le monde pensait qu'il était fini. Il arrive là, puis bon, les Browns sont supposés de s'écrouler. Puis au contraire, je trouve que ça a été un bel exemple de résilience de Flacco, oui, mais des Browns aussi. Il faut pas oublier que c'est une équipe. Là. Ouais, c'est pas mal là, le moment moi que j'attendais le moins, qui m'a le plus surpris cette année.
Ben, moi aussi, je jouais avec un corps arrière. Là. Je pense que quand Aaron Rodgers s'est blessé, on a tout dit à Zach Wilson, ça va être pourri, puis tout ça, puis... Au contraire, là, il a prouvé tout le monde tard. Puis... Ah non, excusez, je me suis trompé.
Tu t'es trompé d'année, ça, c'était en 2032.
Oui, c'est ça, exact. Non, je vais y aller avec Joshua Dobbs. Là. Je sais là, qu'il n'est pas mené à terme.
C'est un beau moment,
c'est vrai. Il n'a pas mené à terme sa belle histoire. Là. Mais tu sais, il est arrivé du jour au lendemain en Arizona. On le disait, là, son chandail n'était même pas à la boutique souvenir.
Ah ouais,
il se donnait
bon.
Corps et âme. Il est allé chercher comme l'affection du public, même s'il perdait. Là, les partisans l'ont adopté.
Ouais.
Puis là, ils l'ont vu partir avec les Vikings. Tout le monde lui souhaitait bonne chance, mais sans trop y croire. Il est arrivé avec les Vikings. Puis écoute, c'est en partie grâce à lui, si vous avez toujours un peu d'espoir.
Totalement.
Avec la semaine 18, d'aller encore se faufiler en séries éliminatoires. Il a pas mené à terme son projet, mais il a donné vraiment des beaux matchs, dont lui, évidemment, là, qui, quand il est arrivé, son premier match avec les Vikings, qui avait couru, qui avait passé, qui avait même soufflé un peu, tu voyais Kevin O'Donnell, qui était wow, tu sais. Fait que, je voyais avec ça, Joshua Dobbs de mon côté. Un autre Jérôme, le contrat de toi, bon, non, ok, c'est pour ça que tu me disais qu'on en parlait tantôt, c'est vrai, j'avais oublié. Le contrat de toi expire cette année. Et ça, ben, il va se comparer à Herbert et Burroughs. Hey, c'est un blasphème. Merci, Jérôme. C'est vrai, là, malheureusement. C'est vrai qu'il va se comparer à ça à cause de ses stats. Il a des bonnes stats, mais clairement, sur le terrain, il n'est pas un joueur de concession comme eux. Il a besoin d'être super bien entouré, entraîneur, joueur, schéma de jeu, etc. pour performer. Ma question, que vont faire les Dolphins? Faire une énorme erreur en lui donnant un pont d'or ou faire comme les 49ers avec Lance et accepter le fait qu'ils ont choisi le mauvais gars et passer à autre chose? Ne pas oublier que Miami a une équipe, est une équipe avec la carte de crédit full. Et on va ça va faire mal dans 2 ans. Bon, ben, non. Jérôme, je t'ai un peu scoopé tantôt. Je sais pas ce que Steph en pense, mais t'sais, il vaut-tu un contrat à la Joe Burrow puis à la Justin Herbert? Peut-être Herbert, il a rien prouvé en ce moment.
Non, je pense pas qu'il vaut un contrat comme ça, mais il vaut certainement plus que le sort qui a été réservé à Trey Lance. Tu sais, je respecte beaucoup l'opinion de Jérôme Tremblay qui nous écrit, mais écoute, Trey Lance, là, c'était vraiment, vraiment pas chic. Là. Il arrivait même pas à se hisser dans la conversation pour être deuxième. Tua, je pense qu'il est clairement un autre niveau. Il mérite un contrat pour moi. Puis je pense que les Dolphins, à cause de ses connaissances du système, à cause de la chimie avec Tyreek Hill, ils vont le ramener. Maintenant, ben c'est ça. Tu soulevais le point tantôt, Jean-Nic. Est-ce que Tua acceptera un contrat de type bridge? Là? Un 3 ans raisonnable au niveau du montant global? Ou un contrat structuré de façon à ce que, ben, ça a l'air d'un ben, ben gros contrat, là, 5 ans pour 250 millions, puis qu'en bout de ligne, on réalise que la façon que la structure est construite, ben, c'est un contrat qui donne 2 ans aux Dolphins, puis qu'après ça, tu peux résilier sans trop de pénalités. C'est peut-être la solution dans un cas comme celui-là. Je dois, peut-être que je l'évalue mal, tu vois. Moi, je le vois plus performant que toi et Jérôme. Vous le voyez, là, définitivement. Je pense qu'il a sa place à Miami puis qu'il a démontré de belles choses. Mais écoute, je vais.
Non, on va mais on a le pire des deux mondes. On a le pire des deux mondes. On a un bon corps arrière, mais on n'a pas un excellent corps arrière. Fait que là, c'est comme les Giants, qu'est-ce qu'ils faisaient avec Daniel Jones? Tu le laisses-tu partir? Ou tu le signes? Un gros montant, parce que toutes les carrières, tu signes avec des gros montants, que t'as
c'est
pas le choix.
C'est sûr que, c'est ça. Tu signeras pas Tua pour 23 millions.
Mais
là,
non.
Maintenant, là, en bas de 40. Tu sais, Daniel Jones, c'est à peu près ça, 40 millions, je pense. T'sais, tu regardes ça avec du recul, ça a l'air d'un très mauvais deal.
Puis, je veux dire, Tua, le triple des stats de Daniel Jones.
Exact.
Fait que, en tout cas. Merci. On va poursuivre d'ailleurs sur, les Giants. C'est Simon qui nous écrit. Il nous dit « J'adore l'intensité avec laquelle Jean-Nicolas vit sa passion pour les Dolphins. » C'est pas bon pour mon cœur, par exemple, mais je vous remercie. Dans l'introduction de chaque podcast, vous promettez d'abord beaucoup d'émotions, et c'est le cas.
Yes.
C'est quand même un peu comique, vu de l'extérieur, de voir Jean-Nicolas être si convaincu que les Dolphins vont perdre contre les Jets.
Ah, ça, et par la bon. Suite, être confiant. Ça aurait dû être ça, mon moment de l'année, Jean-Nic. Moi, quand notre auditeur, tantôt, nous a demandé, je pense que c'était Jérôme Jacques qui nous demandait quel est votre moment préféré, là. Ça aurait dû être ça. Ça, c'était fort.
Écoute, je suis un partisan, là, je connais rien, là, fait que je m'emballe, puis là, voilà, je pense que les Jets vont gagner.
Tu sais qu'il y en a qui vont ressortir la quote dans un an, dans 2 ans, hein. Je suis un partisan, puis je connais rien. Il y en a qui vont l'identifier, la quote, puis ils vont l'isoler, puis te l'envoyer à chaque fois, là. T'aurais pas dû dire ça.
Je sais. Mais les auditeurs de la zone payante, ils ont plus de profondeur que ça, puis ils feraient jamais ça. C'est mal à connaître.
C'est vrai.
Les Giants ont tenté un converti de 2 points à 26-25 en fin de partie plutôt qu'un botté pour l'égalité. Ouais. Je ne suis pas vraiment certain de cette stratégie. Il me semble que c'est nouveau comme approche. Peut-être que c'est arrivé avec les statistiques avancées. Est-ce que c'est nouveau comme approche ou voyait-on aussi cela avant? Est-ce que ça fonctionne véritablement côté statistique? Bon, Simon.
Ben, on voyait ça avant, mais c'était beaucoup plus rare. C'est effectivement qu'on le voit plus aujourd'hui, mais ça reste que... Oui,
ben, d'abord parce que le
Mais...
Ouais, mais d'abord aussi parce que Steph, là, le 2 points est à la ligne de 2, là.
Ouais. Ah oui, il y a ça. Puis l'autre affaire, dans un cas comme celui-là, plus précisément, tu sais, les Giants, qu'est-ce qu'ils ont à perdre? Qu'est-ce qu'ils ont à gagner? Donne une victoire à tes gars, ça va leur faire plaisir. Les gars, les joueurs, ils continuent de bûcher, là, même si tout le monde sait que la saison est finie depuis 7-8 semaines, là. Ils travaillent fort, ils continuent d'investir du temps là-dedans, puis d'essayer d'y croire, de trouver des façons de performer malgré tout. Puis écoute, là, t'as une chance de gagner un match plutôt que d'envoyer ta gang en prolongation. Vas-y, puis écoute, tu peux juste faire plaisir à du monde. Dans un cas comme ça où finalement, ben, tu gagnes pas, écoute, ça change quoi au final au classement? Moi, je pense que dans un cas comme ça, on peut pas trop en vouloir à Brian Daboll.
Félicitations pour votre émission. J'espère que vous allez poser cette question pour le bienfait de votre auditoire. Alors, c'est fait. Oh. Paul-André Gagné.
Ouais. Ouais, on a eu quelques questions de Paul-André Gagné cette saison. Oh!
Ah oui, mais c'est le nom de mon père. J'avais-tu déjà mentionné ça?
Faudrait que tu lui demandes si c'est lui qui nous écrit. OK.
Non, mais il rajoute Junior. Donc, à moins que mon père ait un fils illégitime, ça ne devrait pas être quelqu'un dans ma famille. Mais, Paul-André Gagné Junior, tu pourras peut-être m'écrire pour m'assurer que t'es pas mon frère. Mais si t'es mon frère, ben, je suis enchanté. Peut-être que c'est le temps qu'on ait des retrouvailles, toi et moi. Sa question. Alors, j'avais posé la question au début de saison. Pourquoi l'équipe des Jets n'allait pas chercher une autre QB pour remplacer Rodgers? Et pourquoi pas Kaepernick? Ah ben tiens, parlant de monsieur qui reste on quote, toi-même, tu avais répondu, Stéphane, tout simplement qu'il n'y avait pas beaucoup de QB dispo. et que l'autre était trop rouillé, en parlant de Kaepernick sans doute. Lorsque l'on regarde la performance de Joe Flacco avec les Browns, et de plus qu'il y avait été un joueur des Jets il y a quelque temps, comment se fait-il que les grands penseurs, les génies de football des Jets, n'ont pas vu en Flacco un certain potentiel d'expérience comparé aux jeunes QB substituts qui sont en général pas tellement bons dans les équipes de la NFL? Donc, ça revient un peu à ce qu'on disait tantôt, Steph, on a ri des Jets beaucoup en début de saison, et là, on se disait, vous aviez un gars dans votre cour, puis vous l'avez pas rappelé, il joue pour les Browns, puis là, il vous a battu la semaine passée. Paul-André qui dit, qui est le génie chez les Browns qui a pris cette initiative et qui sont maintenant en série?
Il y a plusieurs parties dans cette question-là. Paul-André, je ne sais pas si il réfère à moi parce qu'il parle aussi là de. Il y a beaucoup d'experts au Québec qui disaient que. Je ne nomme des chroniqueurs sportifs au Québec que je ne nommerai pas et qui riaient de la décision des Browns. Je me souviens pas si j'ai ri de la décision des Browns d'amener Flacco. Je sais pas si je suis visé dans le commentaire, j'aimerais juste le savoir, mais ça se peut que j'ai ri, ça se peut. Parce que moi, j'y croyais plus en Flacco, là, je le dis en toute humilité. Je me disais que les Browns posaient un geste désespéré, mais à ce moment-là, je me disais, de toute façon, il se retrouvera pas sur le terrain. Il y avait, Watson était blessé, mais il y avait Walker, il y avait Dorian Thompson-Robinson. Fait que les chances de le revoir jouer étaient minces. Fait que moi, je pense que c'est comme ça que je le prenais. Mais pour l'autre partie de la question, pourquoi les Jets l'ont pas signé, par exemple? Faut vous dire une affaire, là. Les Jets l'ont vu là, l'année passée, l'année d'avant. Ils étaient 1-8 avec eux. T'sais, je pense qu'ils ont conclu qu'ils ne pouvaient pas les amener ben loin. Ils avaient vu ce qu'il y avait à voir de lui. C'était pas un bon fit pour leur système de jeu. Je suis pas en train de dire qu'ils ont pris une bonne décision. Je me mets dans leurs souliers. Tu te dis, OK, Flacco est dans la rue. Est-ce qu'on le signe? Ouais, mais il nous a donné 9 matchs. Il en a perdu 8. Pas tellement tentant, là, tu sais. Écoute, je pense qu'ils ont mal géré leur carrière. Ça leur donne rien, là. Mais Flacco, pour eux, c'était pas l'homme de la situation. Ben, ils se sont trompés. Puis qui est le génie chez les Browns? Ben ça, il y a personne qui va arriver en avant puis qui va dire, c'est moi, c'est ma décision.
C'est pas Catherine Reich?
J'allais dire ça, je me pose la question, est-ce qu'elle est derrière cette décision-là? Ce serait intéressant de le savoir.
Parce mais elle parle juste à Penelope McQuaid, Catherine Reich, malheureusement.
Ouais, c'est plate, ça, parce que il y aurait des choses à aller chercher, là, parce que les Browns ont connu une super saison dans des circonstances très difficiles. Je pense qu'elle aurait beaucoup à dire, Catherine, mais on peut soupçonner là, qu'elle était derrière un geste comme ça, parce que c'est carrément son rôle là à titre d'adjointe au directeur gérant là, d'aider à prendre des décisions dans ce type-là.
Simon nous pose la question, avec les démêlés avec la justice, les contre-performances après sa grosse blessure, est-ce que c'est la fin de la carrière de Von Miller? Puis moi, je vais mettre une question de plus à celle de Simon. Est-ce qu'il a compromis son entrée ou son intronisation au Temple de la renommée?
Pour ta question, moi, je pense pas, là. Ceux qui votent pour le Hall of Fame essaient en général de tenir compte là de pas tenir compte, c'est-à-dire du hors terrain. Puis tu sais, Von Miller a été spectaculaire en série au fil de sa carrière. C'est lui qui a amené un Super Bowl aux Broncos carrément là. La dernière année avec Peyton Manning, l'attaque c'était pas très chic. Avec les Rams, il a été extraordinaire aussi là, dans la run des séries. Fait que c'est pour ça, moi, je vais attendre de me prononcer. Est-ce que c'est la fin de sa carrière? S'il connaît un énorme mois de janvier puis qu'il amène les Bills au Super Bowl, ben non, ce sera pas la fin de sa carrière. Mais c'est clair qu'il a un gros contrat. Il est pas à la hauteur de ce contrat-là. Il joue seulement 24% des snaps en défensive. Là. Moi, je voyais qu'il jouait pas tant.
Il scratch en fin de semaine, non?
Ben, ouais, c'est ça. Mais 24%, je m'attendais pas que ce soit aussi bas. Honnêtement, c'est sûr qu'à date, il est pas à la hauteur du contrat. Fait que c'est ça. C'est peut-être la fin, mais tant que t'as pas vu Von Miller en série, là, attendons avant de conclure.
Quel est Eddie qui nous pose la question? Quelle est votre prédiction pour le Super Bowl? Écoute, moi, en début d'année, j'avais vu un rematch KC contre les Eagles. Si ma mémoire est bonne. Mm-hmm. Là, j'avoue que ma confiance en Casey est un peu ébranlée, mais ils vont avoir une semaine de repos. Ils vont avoir une espèce de... Moi, je pense qu'il y a trop de leadership à Casey pour qu'il se fasse surprendre en série. Même s'ils vont jouer à l'étranger, Même s'ils doivent aller jouer à Buffalo. Même les Ravens, moi, Lamar Jackson, là, ça se peut là, que ça soit monsieur saison régulière encore. Là. Fait que je revois qu'ici, tant que Patrick, moi, je gage pas contre Patrick Mahomes. Je pense que tu me l'as très bien enseigné. Je revois qu'ici, je vais garder mon choix de Casey pour faire une run jusqu'au Super Bowl. Puis, écoute, là, les Eagles, j'avoue que c'est difficile d'y croire. Là, tu sais, là, j'ai plus confiance dans les Cowboys en ce moment que les Eagles. Puis j'ai plus confiance aux 49ers que les Cowboys. Fait que je vais y aller avec un choix plate, 49ers, Casey, pour le Super Bowl.
Ben, moi, j'avais au
Mais
début de l'année...
j'attends de voir qui... Je vais te dire qui va gagner, par exemple, seulement au premier round des séries.
Oui, là, on a le droit là, de bouger notre opinion, mais la question est posée là, on va y répondre maintenant. Là. Moi, j'avais Niners contre Bengals au début de l'année. Évidemment, mon choix des Bengals est mort quand Joe Burrow est tombé. Je vais garder les Niners au Super Bowl, puis je vais y aller, tiens, avec les Bills. Si tu le fais que je reviens de là, je le sais pas. Pourtant, il y a des points d'interrogation à Buffalo en ce moment, mais c'est quand même une équipe qui a le vent d'un voile en ce moment. Fait qu'un Super Bowl Bills Niners, je dirais pas non. Yes!
T'as pas me dire que tu t'ennuyais de ça, là?
Ben oui! Non, mais même Robin, il nous l'a dit qu'il s'ennuyait de son petit jingle.
Je sais. Ben le voici, Robin, le retour de ton jingle. En espérant que ça lance ta nouvelle année de façon positive.
Ben oui.
Voici la question de Robin. Que pensez-vous de ce scénario? Bill Belichick et les Pats se séparent à l'amiable à la fin de la saison. D'un côté, jusqu'ici, la direction des Jets n'est pas très satisfaite du travail de Saleh. D'un autre côté, Belichick et Aaron Rodgers discutent en privé de leurs intérêts communs à travailler ensemble. Résultat, Belichick, bête noire des Jets, devient leur coach. Mais coach seulement et reprend sa tumultueuse association avec les Jets. Pensez-vous qu'une association Rodgers-Belichick serait vouée au succès? D'abord, est-ce que c'est possible?
J'adore. Non, je pense pas. Parce que non. Belichick haït viscéralement les Jets. Là. Viscéralement.
Oui, on a déjà vu du monde qui s'haïssait puis s'unir pour la cause.
Ouais. Mais écoute.
Moi, là, comme partisan des Dolphins, Jason Taylor est allé jouer à New York. Là. J'ai tout vu. Là.
Brett Favre a été joué au Minnesota.
Et voilà.
Mais Belichick, tu sais, ça remonte à l'époque où il avait été coach d'un jour des Jets. Là. Lui, il s'était séparé de cette organisation-là là, en la méprisant. Après ça, il y a eu ce qu'il appelle la trahison d'Eric Mangini. Tu sais, c'était son ancien coordonnateur défensif qui était parti pour aller diriger les Jets. Ah, il pouvait plus le sentir. C'est comme viscéral, on dirait. L'autre chose dans ce scénario-là que j'aime beaucoup, là, soit dit en passant, ce serait fantastique si ça arrivait parce que ça donnerait de la maudite bonne télé. Mais pourquoi là où je vois une affaire qui accroche, c'est que je sais pas si Aaron Rodgers a le tempérament pour se faire coacher à la dure, à l'ancienne et tout. Tu sais, tu regardes au fil de sa carrière, il y a eu surtout des players coach, là. Aaron Rodgers, que ce soit Mike McCarthy, Matt LaFleur ou même Robert Saleh, qui est reconnu comme très, très proche des joueurs. Ce serait une approche complètement différente avec Belichick. Là. Donc, est-ce qu'il serait prêt à aller vers ça? J'en doute. Mais écoute, merci pour le scénario parce que faut avouer que ce serait drôle si ça arrivait. Là. Belichick qui se retrouve avec l'ennemi, avec Aaron Rodgers. Ce serait quand même assez spécial.
Il va y avoir beaucoup de scénarios de tout ça là, si Belichick fait partie de ceux qui font leur valise lors du Black Monday qui arrive rapidement. Merci à Robin d'avoir posé cette question. Merci à tous d'avoir participé encore une fois à la période des questions pour la zone payante. Vous pouvez nous rejoindre en tout temps. Nous joindre sur les médias sociaux en nous adressant la parole directement sur Twitter, sur Facebook. Vous pouvez aussi être membre de notre groupe Facebook, Nos précieux conseils Fantasy Football. Même si le Fantasy Football est terminé, on continue à rester, à garder le groupe vivant. Donc, Nos précieux conseils de Fantasy Football. Et vous pouvez aussi nous écrire à l'adresse courriel suivante.
La zone payante en commercial, québecormedia.com.
C'est la pause avant le bar. Alors, allez vous chercher des chips et on revient dans quelques secondes. Bougez pas. j'ai retrouvé mes effets sonores. Fait que ça me donne envie de jouer du drum pour le bar.
Ah ouais.
Est-ce que, mon cher, t'as un invité au bar cette semaine? Tu me l'as pas dit. La dernière fois que tu m'as pas dit un invité au bar,
non,
c'était une cachette.
Non.
Pis c'était pour m'inviter moi. Pas.
Non, je t'enverrai pas toujours au bar, Jean-Nic, quand je te le dis pas, je te rassure. Là. Je veux pas que tu vives toujours comme en regardant par-dessus ton épaule le prochain
oui, c'est
play-off.
Ça, là. Je peux pas te faire confiance. Je peux faire confiance à qui, là?
Ben non, c'est ça. Là. Moi, je veux que tu me fasses confiance. Donc, bon. Inquiète-toi pas, quand je te dirai pas mon invité, c'est pas toujours que je manigance contre toi.
Ça marche, ça me rassure.
Je veux juste te le dire pour que ce soit clair. Non, moi, j'envoie cette semaine le grand Aaron Rodgers au bar, Jean-Nic.
Oh! Ben non, pas Rodge.
Ouais, ben tu sais, là, ça fait à un moment donné, là, les entrevues complaisantes avec Pat McAfee, on sait d'ailleurs que c'est des entrevues payées, là, puis très bien payées pour apparaître à chaque semaine au show de son body.
T'as toujours une petite dent contre cette complicité là, entre ces deux monuments.
C'est pas ça, non, je t'explique. Vas-y. Pour que ce soit clair. C'est pas que j'ai une dent contre ces deux monuments. McAfee fait très bien sa job, puis Aaron Rodgers fait très bien la sienne, mais... Faites pas passer ça comme une entrevue. C'est pas une entrevue, là. C'est une vitrine pour mettre en valeur les idées d'Aaron Rodgers. C'est tout ce que c'est. Donc, arrêtons de niaiser, là. C'est juste ça, moi, mon problème avec ça. Pat McAfee, je suis capable d'écouter ce qu'il fait en dehors des entrevues d'Aaron Rodgers. Il est très bon aussi sur College Game Day. Il amène de la vie sur un plateau. Fait que j'ai rien contre McAfee, mais... C'est sûr que je préférerais voir Aaron Rodgers, je sais pas moi, au Dan Patrick Show, des
ouais,
affaires
c'est sûr
de même.
Qu'il, il est pas cuisiné là quand il s'en va.
Ben non, zéro cuisiné. Il dit des choses qui font aucun sens. Puis là, McAfee, wow, il l'applaudit. Puis écoute, ça fait un peu pitié.
Bon, il dit des choses qui font aucun sens, sauf cette semaine. C'est ça que t'allais dire.
Ah oui, sauf cette semaine, tout faisait du sens. Là, écoute, cette semaine, c'est que tu mets la réputation de quelqu'un en danger, ben pas en danger, mais tu l'exposes, puis je trouve que c'est vraiment cheap. McAfee puis AJ Hawk qui se mettent à parler là, de la fameuse liste de Epstein qui devrait sortir prochainement avec toutes sortes de noms. Ça n'a pas rapport. Il parle de ça. Pis là, il y aurait des associés, puis des clients, puis toutes sortes de noms là, qui seraient associés à Epstein qui était, on va se le dire, clairement une ordure, là. Qui devrait sortir prochainement. Puis Aaron Rodgers a pas pu s'empêcher de glisser. Ah, il dit, je vais popper une de ces bouteilles, mais que les noms sortent. Puis il y a bien des gens qui sont nerveux en ce moment, incluant Jimmy Kimmel.
Mais non, il a pas nommé un gars. Il a nommé quelqu'un.
J'imagine que Rodgers va revenir là-dessus mardi prochain. C'est à chaque mardi, le segment de McAfee avec lui. Il va sûrement dire, écoutez, il y a du monde qui ont paniqué parce que j'ai nommé Jimmy Kimmel. Je parlais pas que lui était sa liste. Tout ce que je voulais dire, c'est que
ouais,
sûrement qu'il connaît des gens qui sont sur... Ben, il va dire qu'il connaît... Jimmy Kimmel connaît des gens qui sont sur cette liste-là puis que c'est pour ça qu'il a dit qu'il serait nerveux. Pis... Mais ça tient pas la route. Tu peux pas... nommer des gens dans des circonstances aussi sérieuses. Tu sais, on parle de cas là, de justice puis tout ça. Kimmel, d'ailleurs, qui a menacé de le poursuivre, il dit qu'il a été jamais associé d'aucune façon quelconque à Epstein. Tu nommes quelqu'un comme ça, écoute, tu fais juste alimenter les potins, non, les rumeurs,
c'est
les ragots.
La preuve en plus là, qui il y a pas la maturité pour parler de autre chose que de ce qu'il dit dans le huddle.
Moi, je trouve que c'est déplorable. Là, ça dépasse les limites. C'est pas Aaron Rodgers qui fait la promotion de ses idées puis de ses affaires personnelles. C'est Aaron Rodgers qui expose quelqu'un potentiellement, là, même qui peut aller jusqu'à le détruire parce qu'il y en a plein. Là. T'sais, imagine les réseaux sociaux en ce moment là, par rapport à Kimmel. Ça doit pas être chic, là.
Qu'est-ce qu'il fait boire au beau Aaron cette semaine?
Je vais être plate, Jean-Nic, là. J'y fais absolument rien boire. J'y donne un coup de pied dans le derrière, sors du bord.
Ah ouais, tu l'expulses.
Non, ça a pas de bon sens.
C'est comme le lancer du nain. Tu le prends par la chine du cou, puis le derrière de ses fonds de culotte. Puis...
Tu m'as parlé souvent d'affaires qu'Aaron Rodgers avait dit cette année, puis hey, il mériterait cette semaine. Puis, ben, c'est pas que j'ignorais, mais je me disais, bon, écoute, il exprime son opinion, il a le droit.
Mais là, c'est assez.
Salit potentiellement quelqu'un là, pour te... Je sais pas, à quoi ça y sert d'Aaron Rodgers de faire ça en plus? Là? Moi, je trouve que dans des circonstances aussi sérieuses, des dossiers aussi importants, d'alimenter des rumeurs sur quelque chose que... Écoute, même si on découvrait dans 2 mois qu'il y avait raison, là, Kimmel est dans la liste, là, pourquoi tu vas lancer un nom comme ça, là, sans aucune preuve?
Kimmel avait l'air assez clair qu'il verrait jamais son nom dans la liste. D'après moi, Rogers, c'est un petit peu trop avancé.
Tu sais, c'est ordinaire, pas à peu près. Fait que bonsoir, Aaron. Tu t'assois au bord, mais on te jette dehors. Là.
Bois dans l'auge avec les chevaux.
Et voilà, et voilà. Fait que je te laisse à ton client, mais pour moi, là, pas de boisson cette semaine. C'est triste, mais il n'y aura pas de cocktail.
Moi, j'amène David Tepper au banc des accusés cette semaine.
Quel bon candidat.
Merci. Je savais que tu allais apprécier mon choix. Un gars qui ça va coûter 300 000 piastres. Hey, 300 000 piastres, c'est des tomates, ça, quand même. Là. C'est pas que la petite amende de la NFL qui le punit pour avoir lancé un verre d'un breuvage sur un partisan, donc des Jaguars. Parce que, on se remet en contexte, les Panthers connaissent une saison horrible. Ils ont pas le choix de première ronde. Ils sont derniers au classement. Ils ont un corps arrière qui ont pris avec le premier choix. Écoute,
là,
je sais pas quel espoir qu'ils ont. Ils vont peut-être y donner une autre année, là, mais... D'après moi, ils vont juste faire un write-off. En tout cas, on s'entend que à regarder CJ Stroud, ça doit pas les rassurer dans le choix qu'ils ont eu à faire avec Bryce Young. Donc, ils s'en vont jouer à Jacksonville. Ils ont une saison de cul. Ils ont un corps arrière qui fait pas la job. Ils ont pas de premier choix. Et là, ils sont en train de perdre quoi, 26-0, 27-0 contre Jacksonville, qui a même pas leur corps arrière partant. Et là, c'est facile de penser qu'un des spectateurs sur place a dit quelque chose d'insultant par rapport à la situation qui prévaut en ce moment en Caroline.
Ben oui. Et c'était le propriétaire.
C'est facile. Ben oui, c'est ça. C'est facile de dire que c'est facile de deviner que le propriétaire a pris ça à cœur ou personnel parce que c'est son équipe. Alors, qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris un verre avec un liquide dedans et l'a garoché au spectateur qui venait de l'insulter. Donc, il a aspergé. J'ai essayé de voir quel était le liquide en question parce que j'aurais aimé ça de l'offrir à David Tepper, mais mon enquête m'a amené dans des cul-de-sac. Donc, je ne sais pas quel est le liquide qui a été projeté sur le spectateur, mais sachez que j'ai fait de l'effort de le chercher. Ceci étant dit, quand j'ai vu ça, moi, en plus, là, c'est rapidement sorti, tu sais, puis je me souviens qu'il y a des spectateurs qui étaient bannis à vie là, d'un match de la NFL quand ils lancent des breuvages sur des joueurs. Là. Fait que, me dire quel genre de pénalité ou quel genre de d'amende va recevoir David Tepper. Là, quand j'ai vu 300 000 piastres, là, j'ai dit, OK, la NFL est sérieuse, c'est de l'argent, mais ça m'empêche pas de l'amener au bar quand même. Et comme il a fait un lancer de son drink, je me suis dit, peut-être que je pourrais aller dans cette thématique-là du lancer, alors je vais lui faire boire un lancer franc.
Oh!
2 centilitres de cognac, 1 centilitre de liqueur de fraise, 9 centilitres de jus d'orange et 5 ou 6 glaçons. Fait que, tu sais, ça peut être un drink qui peut être plaisant à boire, là. Peut-être pas 2, mais 1.
Faut pas qu'il garoche, par exemple.
Ouais, exact. Ça, c'est l'autre. Ça, c'était ma chute. Yeah. Tu m'as un peu volé ma chute, mais je vais la faire quand même. Faut placer quelques glaçons dans le shaker, verser le cognac et les ingrédients, fermer le shaker, agiter jusqu'à ce que les parois soient glacées, verser le contenu du shaker en retenant la glace dans le verre, garnissez avec une fraise et ensuite le boire. Faut pas qu'il garoche sur personne.
Es-tu capable de faire ça, lui?
Et je lui souhaite, parce que ça a l'air d'être un bon drink quand même, là, malgré tout.
Mais c'est un monsieur très intempestif.
Oui, il a déjà démontré qu'il pouvait être maussade à certains moments.
Il a viré pas mal de coachs, autant au football qu'au soccer.
Donc voici ce qui conclut cet épisode cette semaine. Merci d'avoir été là, chers téléspectateurs, ceux qui nous regardent sur YouTube ou sur le site de Cube. Vous pouvez nous regarder en audio, visuel. Ou vous pouvez aussi nous écouter en version audio seulement sur la plateforme de Cube ou sur toutes vos plateformes de balado. C'est un remerciement que je vous offre pour cette semaine. Je l'offre aussi à Stéphane. Merci, Steph.
Bonne année à tout le monde aussi. On vous aime. Merci d'être là.
On se retrouve la semaine prochaine. Bye-bye.